ouvrage est entre les musulmans et au Kassan oriental. J'ai réussi totalement ce qui
s'est passé.
Bienvenue à Parole aux auditeurs, le paludisme au centre de notre émission de ce jour, alors que selon le rapport 2010 de l'Organisation mondiale de la santé, la lutte contre le paludisme enregistre les meilleurs résultats depuis des décennies dans le monde. En RDC, elle fait toujours face à une forte endémie. Elle tue un enfant toutes les 30 secondes et 80% des cas enregistrés se trouvent en Afrique subsaharienne, où il concerne majoritairement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Par exemple, à Manono, Katanga, en 2011, la maladie avait atteint 26 300 personnes, dont plus de 300 femmes enceintes, et a fait 190 décès, parmi lesquels 174 enfants de moins de 5 ans. Ces statistiques ne concernent que le nombre des malades qui se sont rendus dans les centres de santé. Que proposez-vous pour lutter efficacement contre cette maladie? Nous aurons deux invités au cours de cette émission. Le premier, ce sera Dr Jean-Baptiste Songy, un ancien ministre de la Santé. Et le second invité, ce sera Dr Richard Mukalenge, spécialiste en santé publique. Tikin Kouti, Kirola Mejie, Kori Kivula réalisent cette émission. Héritier Sylvia Kala est à la mise en onde. Marie-Chantal Lumba est à la présentation.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapitale.net.
Bonjour docteur Songy.
Bonjour.
Nous vous remercions d'avoir accepté pendant une trentaine de minutes d'échanger avec nos auditeurs, sensibiliser, mobiliser les populations pour une lutte efficace contre le paludisme. Nous allons commencer par des petites notions. C'est vrai que chacun en RDC ou tout Congolais ou tout Africain, dès qu'il fait un peu de fièvre, il se dit peut-être je fais du palu. Pouvez-vous nous dire d'une manière assez succincte qu'est-ce qu'est le paludisme?
Le paludisme est une maladie parasitaire qui provient de la piqûre de l'anophèle qui inocule des plasmodiums dans le sang. Mm-hmm. Et lequel parasite, suivant plusieurs cycles, arrive à coloniser les globules rouges qui éclatent toutes les 48 heures ou toutes les 72 heures. Donc vous avez des fièvres à une périodicité pratiquement à la même heure, tous les deux jours ou tous les trois jours, en fonction du type de plasmodium que vous avez dans le sang. Et souvent, ces épisodes d'éclatement de globules rouges correspondent aussi à des épisodes de fièvre. Mmh. Alors, maintenant, effectivement, chez nous, chacun a tendance à faire le diagnostic de paludisme lui-même. Et donc, cela conduit à l'automédication, ce qui est une erreur, une faute grave, ce qui complique d'ailleurs le traitement. C'est difficile d'abord, les gens ne savent pas, ne connaissent pas très bien le traitement contre le paludisme, parce que un traitement mal conduit peut avoir des conséquences à long terme, dans le sens où ça peut créer la résistance du parasite. Mmh. Mais la fièvre aussi, il y a beaucoup d'autres pathologies qui donnent la fièvre. Donc l'automédication est certainement à proscrire.
Et quelle est l'attitude, la meilleure attitude à prendre lorsqu'on fait une fièvre? Quels sont les premiers gestes qu'on peut avoir lorsqu'on fait une fièvre?
Lorsqu'on fait une fièvre, je pense qu'il vaut mieux aller dans un centre de santé. Vous pouvez prendre, bien sûr, des antipyrétiques du genre aspirine ou du paracétamol pour diminuer la fièvre. Mais je pense que pour avoir un traitement de fond, on doit avoir le diagnostic. Quelle est la cause de cette fièvre-là? Parce qu'il y a plusieurs éléments, comme je viens de dire. Mm-hmm. Alors, s'il y a un centre de santé proche, vous allez là-bas et normalement, si le personnel médical qui soigne la maladie, on fait une goutte de test. Mm-hmm. Et c'est la goutte de test, disons, qui donne le diagnostic
du paludisme,
on fait un traitement tout à fait complet du paludisme.
Mais souvent, les patients se plaignent du prix qu'il faut payer pour avoir des résultats du laboratoire. À ce moment-là, qu'est-ce que vous conseillez aux auditeurs qui nous suivent en ce moment?
Non, il faut nécessairement faire l'examen de laboratoire, il faut faire une goutte de test. Mais non, il est vrai que dans la mesure où, dans notre pays, écoutez, les soins de santé sont pratiquement pris à la charge du patient, les jeunes patients se caractérisent par une pauvreté croissante, ça devient un problème. Et là, c'est un problème d'organisation de la société qui doit se résoudre ce problème-là, dans la mesure où le paludisme provoque beaucoup de... Si le plan de la production agricole, disons économique plutôt, ça a des conséquences assez lourdes. Parce que nous avons en moyenne autour de 37-40 millions d'épisodes de paludisme par an, ce qui est énorme. Parce que ce sont des gens qui ne travaillent pas, ce sont des gens qui restent chez eux. Donc ça coûte beaucoup. Alors il faut comparer entre les investissements que l'État peut faire pour réduire l'impact du coût pour le patient qui fait des examens médicaux. Et le coût que cela entraîne lorsqu'une personne est en hôpital. Donc là, on doit tout faire pour que les soins de santé, surtout pour une maladie aussi importante que le paludisme, que l'accès aux soins de santé, y compris le laboratoire, soit quand même accessible.
Docteur, restez avec nous, nous allons suivre nos auditeurs, ils vont nous dire ce qu'eux pensent pour lutter efficacement contre cette maladie, parce qu'elle est quand même connue par la plupart de nos auditeurs. Et pour tous les auditeurs qui veulent participer à cette émission, vous avez trois possibilités. Vous pouvez composer le 081-890-6315, le 081-890-6315, le temps que vous donnez votre numéro de téléphone, la ville d'où vous appelez, ainsi que votre prénom, et nous allons vous rappeler. La seconde possibilité, c'est de nous envoyer, nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net ou encore poster votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs avec le logo de Radio Okapi.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Serge. Serge, bonjour.
Allô?
Oui. Car je vous ai déjà en ligne sur les antennes de Radio Capi, nous parlons du paludisme. Dites-nous, vous connaissez cette maladie, peut-être vous en avez déjà souffert, et qu'est-ce qu'à à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait pour lutter efficacement contre cette maladie?
Oui, bonjour, Marie Chantal.
Oui, bonjour.
Je pense que aujourd'hui, pour lutter efficacement contre le paludisme, la première des choses, à mon sens, je suggère qu'il faut d'abord avoir l'observance stricte d'hygiène. Par là, qu'est-ce que je voulais dire, Marie Chantal? Je crois que tout au long de notre parcelle, aux alentours de notre environnement, ce que j'appelle l'environnement immédiat, doivent constater ce que j'appelle l'observance stricte d'hygiène. Pour pas qu'on puisse constater trop de santé, trop de poubelles, et cela faire ce qu'aujourd'hui, on a fait trop de moustiques. Et c'est par là que nous apprenons, n'est-ce pas, cette maladie qu'on appelle aujourd'hui la malaria ou le paludisme. Mais il faut bien aussi que le gouvernement et donc l'État congolais, que moi j'ai toujours dit dans sa conception moderne, c'est moi, c'est mon frère, ma soeur, doit comprendre que nous devons investir plus dans ce secteur de la santé. Je pense qu'aujourd'hui, pour que nous puissions avoir autant de production, on parle d'avancer sur tous les plans. La santé s'avère être importante pour que nous puissions, n'est-ce pas, fournir autant de rendements dans tous les secteurs. Eh bien, le soin de santé de qualité serait quelque chose de très, très important en France, parce qu'une fois qu'on offre autant de revenus pour que les gens aient accès au soin de santé de qualité, ce serait très important. Mais je suggère aussi que les gens puissent accéder aux mutuelles de santé, parce qu'ici à Bouna, je vois que, bien, par exemple, ces mutuelles de santé qu'on appelle Moussaka, communément, c'est les mutuelles de santé dans l'âme, et c'est très, très important, ça permet quand même à un prix relativement bas d'accéder à ce soin de santé. Parce que c'est très important. Mais il y a aussi une autre secteur avec le fonds d'achat social, donc le bien compte qu'il faut qu'aujourd'hui, ça permet qu'aujourd'hui les gens accèdent, disons, au soin de santé de qualité. Donc,
sont connus, mais sont sans quelle qualité, et que l'État puisse aussi donner un coup de pouce pour que les revenus puissent augmenter et que la santé soit quelque chose de très facile dans ce pays.
Merci beaucoup, Serge. Tout juste en vous écoutant, il y avait un bruit d'avion, donc vous n'êtes pas très loin de l'aéroport, mais on a quand même suivi toutes vos propositions, assainir son milieu, lutter contre la nocelle, le gouvernement puisse s'investir davantage dans le secteur de la santé, faire recours à des mutuelles de santé, que les appuis qui viennent de l'extérieur, comme la 9e FED, qui aide certaines structures de santé pour améliorer la qualité des soins. Et en plus, vous revenez encore une fois sur ce revenu, le revenu du citoyen congolais, pour qu'il puisse facilement se prendre en charge. Merci encore une fois, Serge Le Bounir. Bonjour, Rigobert. Rigobert, bonjour, vous êtes à Tikrit dans le Bandundu. Des problèmes avec la liaison téléphonique de Rigobert qui se trouve à Tikrit. Et je rappelle à tous nos auditeurs qui nous suivent en ce moment, vous pouvez composer le 081-890-6315 ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapit.net. Rigobert est à nouveau en ligne. Bonjour Rigobert. Rigobert ?
Oui, à l'écoute, merci beaucoup.
On a eu des problèmes avec votre liaison téléphonique, c'est Rigobert ?
Je répète un peu la communication parce qu'il y a beaucoup de crash au niveau de l'appareil, c'est ça me réglé vraiment.
Ah bon, mais nous on vous entend 5 sur 5. Vous connaissez le thème du jour, c'est pourquoi vous avez appelé et que vous voulez intervenir. Nous vous écoutons, Rigobert.
Ok, c'est tout autour du paludisme parce que c'est une maladie en train de saisir une maladie tropicale où on trouve qu'il y a un taux de mortalité un peu élevé. Alors ça nous a poussé par les journalistes qui étaient ici pour qu'on puisse un peu dire quelque chose d'actif.
Allez-y, je vais le faire.
Okay, on peut avancer?
Oui, allez-y, nous vous écoutons 5 sur 5, Rigobert.
Ok, nous disons que c'est une maladie, une érythrocytopathie. Maladie des globules rouges est causée par un hématosomère appelé plasmodium, qui est transmis par un moustique femelle déjà par la pelle, mais qui est aussi maladie tropicale. Je crois qu'elle est à la hauteur d'un taux de mortalité beaucoup plus élevé, surtout aux femmes enceintes et aux enfants à moins de 5 ans. Alors, c'est aussi. Quand nous voyons malaria qui signifie mal à rouge, donc qui signifie les mauvais airs. Le facteur favorisant, c'est la salubrité du milieu, où il y a beaucoup de présence d'herbes, de marécages, des eaux stagnantes, gardées dans des réservoirs qui ne sont pas vidés. L'ombrage aussi.
Oui, et Rigobert, en vous écoutant, nous sentons que vous avez des connaissances assez approfondies sur le paludisme, mais avec des mots assez simples hein, pour que tous les auditeurs puissent comprendre. Quelles sont vos propositions pour lutter efficacement contre le paludisme? Parce que nous savons que cette maladie est devenue endémique. Donc c'est devenu tellement normal que de temps en temps on se pose même la question s'il ne faudrait pas trouver une solution pour vivre correctement avec son paludisme. Et quelles sont vos propositions?
Pour le moment, nous retrouvons beaucoup de mauvaises habitudes qui font qu'il y ait une résistance à cette maladie pour beaucoup de cas. C'est un mauvais traitement qui est aussi à la base d'une mort. C'est aussi, je crois qu'avec les stratégies de l'OMS, il y a les ACT qui sont mis en vigueur.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ACT, c'est ça?
Oui, les médicaments contre l'assassinat, ce sont les ACT.
Donc, à votre avis, il faudrait pouvoir suivre ces recommandations de l'OMS qui propose un traitement.
Nous avons la combinaison des constituants. Il y a la modiatine et les antémétères qui sont mis en vigueur pour le traitement. Et la chimie qui est maintenant un traitement de choix. Mais malheureusement,
On a des problèmes avec la liaison téléphonique de Rigobert, donc il est en train de nous expliquer. On sent que c'est un expert, on croirait même que c'est un personnel soignant en l'écoutant. Donc il préconise d'abord l'assainissement de son milieu, mais aussi suivre ce que nous recommande l'OMS dans la prise des médicaments. Il a fait allusion à une combinaison des médicaments qui est un traitement de choix contre le paludisme, mais aussi ajouter de la quinine. Nous avons des problèmes avec sa liaison téléphonique. Merci, Rigobert de Kikwit. Jimmy, vous êtes à Matadi, bonjour.
Oui, bonjour, maman Marie-Chantal.
Oui, qu'est-ce que vous proposez, Jimmy?
Nous avons un certain nombre de problèmes. Tout ce qui a été dit par le président intervenant, mais est-ce que l'assainissement de l'environnement est toujours régulé? Parce que chez nous, quand j'étais par exemple des filles étudiantes à l'université de Kinshasa, souvent, les gens viennent pour assainir le milieu. Mais après un moment donné, les gens abandonnent, ils s'en vont, ils se reviennent plus loin. L'assainissement doit être régulé. Parce que la santé n'a pas détruit comme on a toujours l'habitude de le dire.
Donc, il faut une certaine prise de conscience dans ce que nous sommes
en train de faire. Oui, cette prise de conscience doit être prise. Dans tout celui qui veut intervenir doit avoir cette conscience à chaque instant. Donc c'est quelque chose comme quand on se réveille le matin, on doit se brosser la dent, on doit... Tout ça, c'est comme partie de la propreté. Parce que la propreté, c'est la grande règle de la santé. Parce qu'on le maîtrise par ce qui est d'abord élémentaire. Comment on peut s'attendre à des solutions, des solutions qui sont un peu adéquates. Donc tout ça, c'est bien. Mais il faut que les autorités qui nous écoutent, parce qu'à chaque instant, à la radio au Capi, nous avons beaucoup de choses qu'on entend. On parle de beaucoup de choses à la radio au Capi. Mais souvent, nos autorités n'entendent rien. Parce que tout ça, nous, nous sommes le peuple, nous sommes la population. Par exemple, moi, je ne vais pas donner mon exemple, mais les filles d'Iris, nous avons ces lois au Congo. Mais malheureusement, toutes ces lois, on ne les applique pas, c'est seulement des slogans. Donc on doit tout mettre en œuvre à chaque instant pour que tout ce que la population est en train de dévoiler, c'est tout cela.
Merci. Merci beaucoup, Jimmy. Donc, pour vous, il faut une certaine prise de conscience, le respect des règles élémentaires d'hygiène, mais aussi aux autorités de mener des actions concrètes. À ce moment-là, vous vous rendrez compte qu'effectivement, toutes les doléances et que vous vous sentirez un peu soulagé par tout ce que vous êtes en train de proposer. Merci encore une fois. Nous allons lire ce message de Mamou Judith qui se trouve à Lubumbashi. Elle nous écrit ceci, l'utilisation des moustiquaires... elles seules ne suffisent pas et ce n'est pas tout le monde qui a le moyen de s'en procurer. Il faut peut-être associer certaines pratiques naturelles. Nous savons que l'agent causal du paludisme, c'est l'agent vecteur du paludisme, c'est la moustique anophèle. Le mieux serait de sensibiliser les communautés afin qu'elles observent les règles pouvant empêcher la reproduction de ces moustiques. C'est notamment lutter contre les eaux stagnantes. Stéphane Paloukou de Dungu nous écrit ceci, pour lutter efficacement contre le paludisme, il faut utiliser systématiquement la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Il faut aussi drainer les eaux stagnantes autour de nos habitations. Cela doit être suivi d'une bonne sensibilisation, car certaines personnes disent qu'il faut installer la moustiquaire dans une maison en matériaux durables et non avec des maisons qui sont faites en paille ou encore des logis. Nous prenons Dr Jeff de Bougny avant de redonner la parole à notre invité, Dr Songi. Dr Jeff, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour, Radio Capi.
Nous vous écoutons. Quelles sont vos propositions? Vous êtes du domaine. Quelles sont les recommandations que vous faites habituellement à tous les malades, les patients qui souffrent de paludisme quand ces patients viennent vous voir? S'il vous plaît, docteur, est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu parce que la liaison est en train de se détériorer? Peut-être que vous êtes en un endroit où c'est pas assez difficile, où c'est assez difficile de pouvoir communiquer avec nous. Déplacez-vous un tout petit peu. Allez-y, docteur.
Je dirais que notre politique nationale de notre pays préconise d'abord la prévention pour résoudre le problème des paludes dans notre pays. Il y a l'assainissement, il y a l'utilisation de moustiquaires, il y a aussi les traitements préventifs intermittents chez les femmes enceintes.
Maintenant, si nous voyons ces axes-là pour résoudre le problème dans notre pays, il faut vraiment un grand effort et une grande action d'envergure du gouvernement pour assainir toutes nos villes. Sur le plan assainissement, vous êtes d'accord avec moi, nous sommes encore loin dans notre pays, mais beaucoup de cas de paludisme sont des cas qui viennent des grandes agglomérations. Il faut vraiment un moyen conséquent pour assainir convenablement les villes. Deuxième chose, la distribution ou l'utilisation des moustiquaires a un impact direct si la population utilise correctement. Mais ce que nous avons remarqué malheureusement, cette campagne où le gouvernement déploie beaucoup de moyens pour sauver la population devient parfois vraiment une source, une organisation de mafia où on détourne beaucoup de moustiquaires, la population finalement ne profite de rien. C'est comme ça que aussi, on continue comme ça. Le problème de paludisme sans assainissement, sans utilisation de moustiquaires, vraiment, je crois que ça ne sera pas résolu dans notre pays. Ce que j'ai à recommander, il faut que le gouvernement mette beaucoup de sérieux, beaucoup d'efforts pour des actions de grande envergure et on va voir la prévalence de paludisme va baisser dans notre pays.
Et docteur, dites-nous, en vous écoutant, nous avons l'impression qu'il y a plus de personnes qui souffrent du paludisme dans les milieux urbain que dans les milieux ruraux.
Exactement, parce que dans le milieu urbain, il y a beaucoup trop de moustiques que dans le milieu ruraux, parce que le milieu ruraux, pour assainir les parcelles, ce n'est pas tellement difficile comme dans des grandes villes comme Kinshasa, comme Kisana, où vous marchez le soir déjà vers 17h, 18h, vous vous cognez avec les moustiques. Dans des villages, il y a par exemple ici à Nitori, le programme Village Assaini, à l'occasion que je recommande à ce que le gouvernement renforce vraiment bien parce qu'il travaille convenablement et puis les villages qui sont assainis, il n'a presque pas le problème de parler avec une telle envergure comme dans une ville comme Bounia ici.
Merci beaucoup, docteur Jeff, de toutes ces mesures que vous me demandez et que vous proposez au gouvernement pour pouvoir lutter efficacement contre le paludisme.
Merci beaucoup, merci.
Parole aux auditeurs.
Et nous revenons à notre premier invité, le docteur Songy, docteur Jean-Baptiste Songy. Vous avez suivi nos auditeurs, en les écoutant, nous sentons que ces auditeurs ont une grande connaissance de la maladie, ils savent comment s'en tirer. Dites-nous, quelle impression que vous avez lorsque vous écoutez toutes ces connaissances de cette première série d'auditeurs qui ont été tirées, bien sûr, au hasard?
Bah, écoutez, c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que le problème est connu, il est assez bien connu au niveau de la masse. Donc, les mesures pour son éradication devraient être d'autant plus faciles dans la mesure où le problème est correctement, malgré le saignement, assez bien identifié par un grand nombre de gens. Donc, c'est une très très bonne chose, maintenant, ce qui reste, ce sont les mesures pour atteindre ces objectifs. Et comme ils le disent aussi bien, la prise en charge du paludisme, en fait, elle a un problème, elle cause des interventions en amont, donc qui consiste à réduire la fréquence de piqûres par les moustiques qui se font par l'assainissement, donc en réduisant le nombre de moustiques eux-mêmes par l'assainissement général ou par la destruction par les insecticides de ce genre-là, et aussi, bien sûr, en utilisant le moustiquaire premier qui vous empêche mécaniquement et chimiquement le passage de moustiques. Mais aussi la prise en charge correcte, évidemment, des malades qui, cette prise en charge, requiert quand même des santé.
Il y a un auditeur qui nous a écrit, il voudrait savoir, avoir plus de précision sur l'usage de la moustiquaire imprégnée. Est-ce qu'on utilise des moustiquaires uniquement dans une maison en matériaux durables?
Non, je ne pense pas. Hein. On peut utiliser les moustiquaires partout. Hein. Quand vous voyez, même dans beaucoup d'hôtels un peu luxueux, dans les Seychelles par exemple, ils ont des paillotes. Ils ont des paillotes qui correspondent pratiquement un peu à nos buts ici. Mais là, ils mettent des moustiquaires. Non, le moustiquaire, je pense qu'il peut être utilisé dans n'importe quel type d'habitation. Mais il faut reconnaître aussi que la distribution des moustiquaires imprimés exige une très grande organisation, de manière à ce qu'on distribue réellement à des gens identifiés, à des familles identifiées, et qu'on vérifie s'ils utilisent. Or, vous savez quand même que ce problème de moustiquaires imprimés, a fait aussi un grand boom à c'était de la part de ceux qui le produisent. Parce que comme nous avons beaucoup de sous d'argent, et moi je me souviens qu'ici chez nous, on a voulu d'abord absolument on a eu beaucoup de fournisseurs qui étaient prêts à faire des programmes, mais on n'avait pas suffisamment préparé la population à cela, parce qu'il faut quand même reconnaître aussi comme il fait très chaud chez nous ici. Donc c'était encore un peu plus de chaleur hein, dans l'habitat.
Est-ce que c'est pas psychologique, docteur?
C'est pas psychologique. C'est parce qu'il y a une barrière comme une mécanique. Hein. Il y a, quand vous prenez, c'est comme si vous aviez un drap, c'est vrai, un drap fait de tissus. Mais si vous prenez toutes les parties où il y a les tissus, si vous les mettez ensemble, c'est une barrière mécanique réelle.
Mm-hmm.
Et donc, tout cela, on devait en tenir compte et surtout bien former les gens, leur expliquer que malgré les portions de chaleur, là, il fallait quand même l'utiliser. Et donc, ça n'a pas été fait. C'est dit que la distribution s'est faite un peu, à mon avis, un peu chaotique. Comme d'ailleurs, beaucoup de choses sont fonctionnées ici. De manière assez chaotique, mais il y a des pays qui l'ont correctement utilisé, ont vu effectivement la prévalence du paludisme complètement diminuée. Vous savez, comme le Rwanda, c'est comme le Sénégal, beaucoup de pays de l'Ouest africain, le Tanzanie. Donc, ce sont des pays qui ont été utilisés de manière sérieuse et on a vu la prévalence du paludisme diminuer.
Mais à ce stade, actuellement, les personnes ont de plus en plus de désinformations. Donc, apparemment, en écoutant par exemple ces auditeurs, tout est en place pour une meilleure lutte. Il suffit maintenant apparemment que suffisamment de moyens pour que la lutte soit vraiment efficace, aussi beaucoup de bonne volonté.
Beaucoup de volonté politique, surtout, parce que vous savez, un pays comme le nôtre, parce que dans les pays comme le Rwanda, c'est un tout petit pays, mais les pays comme le nôtre, ici, sont des grands pays avec des variétés écologiques. Donc, ça nécessite une organisation de très, très grande envergure, mais aussi une lutte soutenue qui doit la durée, parce que le paludisme, je ne pense pas qu'on arrivera à faire disparaître de sitôt le paludisme, mais on peut le contrôler suffisamment, parce que bien qu'il y ait des pays comme l'Italie ou le sud de l'Europe, où le paludisme a existé, mais qui a été complètement éradiqué. Mais pour nous, je pense que ça prendra beaucoup de temps, mais ça nécessite surtout une organisation et une lutte véritablement soutenue. Et effectivement, cela exige une volonté politique, des ressources financières importantes, des ressources humaines qui sont motivées, et donc une éducation pour la santé qui concerne toute la population dans son ensemble.
Et revenons à une toute dernière question, il y a un auditeur qui est revenu sur le traitement, les molécules qui sont recommandées. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à force, par exemple, d'utiliser la quinine, on peut créer une certaine résistance et pourtant la quinine, c'est le plafond dans le traitement du paludisme?
Bien sûr, c'est pour cela que normalement, aucun malade ne devrait se traiter seul. Le traitement est une responsabilité d'un spécialiste, donc des agents sanitaires. Donc, le revient à eux d'utiliser les médicaments. Parce qu'effectivement, la quinine, c'est le médicament de dernier recours.
Mmh.
Donc, pour le moment, il y a une combinaison d'acétaminophène avec amodiaquine, qui est le médicament de première ligne, et qui, normalement, ne coûte pas très cher, qui coûte entre 1 ou 3 dollars. Parce que c'est une question de 3 jours.
Mmh.
Et au total, ça doit coûter, je pense, soit 1 dollar par jour, ou au total de 1 dollar. Donc, et ça, c'est le fonctionnement même qui le fait. Et donc, il est formellement déconseillé que les gens s'auto-méditent. Mais ceci devrait s'accompagner. Normalement, dans tous les pays du monde, les médicaments sont distribués par les pharmaciens. Et les pharmaciens, c'est ce qu'ils savent cela. Mais ici, chez nous, vous savez que la pharmacie devient un commerce comme tous les autres. Donc, n'importe qui va dans une boutique où on vend les médicaments, eh bien, quelqu'un vient avec l'ordonnance, il lui donne n'importe quoi. C'est ce qui facilite aussi l'automédication qui est très préjudiciable
mais aussi des médecins qui prescrivent en fait aussi la quinine.
Bah oui, j'en dis autant. Mais dis donc, oui, si ils prescrivent la quinine en première ligne, bah, ils doivent suivre la politique sanitaire du pays. Hein.
Mm-hmm. Merci beaucoup, docteur Songy, de nous avoir donné de votre temps, ces 30 premières minutes d'émission. Nous nous poursuivons avec les auditeurs et un second invité que nous allons accueillir d'un moment à l'autre.
Merci.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, Michel. Vous êtes ici à Kinshasa, en attendant que nous puissions saluer notre second invité qui sera aussi avec nous au bout du fil. Michel, quelles sont vos propositions pour lutter efficacement contre le paludisme?
Merci, c'est Michel Moutara, depuis la commune de Ngaba. Je profiterai de cette occasion pour saluer la radio Capi, nom d'invité ainsi que les différents auditeurs qui étaient maintenant là. De ce qui est le paludisme, nous y vont bien. C'est une maladie que nous ne pourrions pas dire endémique ou épidémique. Pourquoi je dis ça? Suivant le nombre de morts qui causent cette maladie, si on prenait ça ensemble, parce que nous avons fait 400 territoires dans notre pays, et puis si nous prenons un exemple, après 30 minutes, nous perdons une personne. Et nous comparons ça avec l'endroit où il y a la guerre, nous pouvons dire que cette maladie tue beaucoup de gens. Donc ça prouve que c'est un grand problème dans notre pays. Pour les gens qui nous dirigent dans le plan sanitaire, quand je dis ça, je vois en premier lieu notre ministre de la Santé. Et il y a aussi les professeurs et d'autres gens là qui luttent contre cette maladie. Ils doivent avoir une politique exacte. Pour espérer que nous ne puissions plus enregistrer des cas de maladie dans le pays, parce que ça tue beaucoup.
Donc pour vous, c'est comme une guerre, c'est une catastrophe.
Oui,
mais nous ne voulons pas que...
Cette maladie est perdue par 5 minutes, nous les mettons tous ensemble, on va enregistrer une maladie d'activité.
Oui, mais messieurs, nous ne voulons pas que ce soit une endémie ou une épidémie. C'est le personnel soignant qui déclare notamment l'autorité sanitaire du milieu. Et qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir lutter efficacement contre cette maladie?
On voit une chose qui est en contraire. Pourquoi je dis ça? Tous, nous sommes en train de tourner autour du pot. Comment? Nous savons pour avoir un peu de médication efficace, bien pour lutter contre une maladie. Nous avons des objectifs qui sont spécifiques. Et général. Mais si on parle de l'immunisme, à part l'immunisme, nous voyons l'utilisation du ministère imprégné. Venez à Kinshasa, exemple en Gaba, là où je suis. Quelles sont les conditions que la population est en train de vivre? Où sont les gouvernants? Où sont les gens de la société? À l'université, on nous apprend. D'abord,
vous
évitez une maladie,
il faut arranger
là où
vous êtes. Et quelle est votre contribution concernant l'assainissement de votre milieu le plus proche? Dites-nous, à votre avis, c'est vrai que le gouvernement a une responsabilité dans cette situation-là, mais vous, qu'est-ce que vous préconisez, par exemple, dans votre quartier, dans votre avenue, pour assainir votre milieu?
Tant que je suis loin de réaliser ça, ce sera pratiquement impossible. Mais ceux qui dirigent la santé dans notre pays doivent savoir que pour lutter efficacement contre cette maladie, doivent d'abord... Allô?
Oui, nous vous écoutons, Michel.
Ils doivent d'abord tenir compte de l'immondisme et de l'utilisation correcte du ministère imprégné.
Merci, Michel. Donc, pour vous, le gouvernement doit faire un effort pour assainir ce milieu et aussi... que les personnes qui utilisent les moustiquaires puissent les utiliser de manière correcte. Nous vous remercions de votre intervention à partir de la commune de Ngaba, ici à Kinshasa. Nous allons à Bukavu, où se trouve Fabien. Avant que Fabien ne puisse intervenir, nous saluons notre second invité. Il s'agit du docteur Richard Mukalenge. Bonjour docteur.
Bonjour Marie-Chantal.
Comme je l'ai dit en introduction, vous êtes spécialiste en santé publique et avec vous, nous allons cheminer jusqu'à la fin de l'émission. Ce sera à 11h15, heure de Kinshasa. Je vous invite à suivre Fabien et d'autres auditeurs avant que vous puissiez réagir face aux avis des auditeurs, mais aussi apporter un plus au cours de cet échange. Bonjour Fabien.
Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour Chantal. Nous vous écoutons. Quel est votre point de vue?
Oui, en fait, moi je voudrais donner une arme qui est essentielle à la médecine préventive. Qui constitue un élément très important du progrès de la santé et par conséquent du développement intégral de la population. C'est concrètement l'éducation à la santé, un processus de changement. Le but ultime de l'éducation à la santé est d'inciter la population à prendre des responsabilités vis-à-vis des problèmes de santé, pas individuels et collectifs. Donc, cette éducation à la santé peut donc être considérée comme une action menée ou exercée sur la population et les communautés pour les amener à adopter des attitudes de vie plus saines, à utiliser d'une façon plus judicieuse les services sanitaires disponibles, à prendre des initiatives susceptibles d'élever leur niveau de santé et d'améliorer la qualité de leur milieu. Et c'est là que se pose le problème. Parce que comme des causes à effet, on a besoin de vouloir soigner la malaria. Pourtant, à mon côté, il y a des herbes, des immondices, des immondices, tout ça, après toujours devenir un problème qui devient un cercle vicieux.
Mmh. Voilà un peu ma question. Donc, éducation à la santé pour adopter une attitude saine, ça c'est un programme. En écoutant nos auditeurs, on a l'impression que chacun d'entre eux a une idée de ce qu'est le paludisme. Mais concrètement, c'est vrai que les gens ont des notions, ils connaissent qu'effectivement, il faudrait essayer d'assainir son milieu. Et à votre avis, les actions concrètes qui doivent être menées dans les communautés, comment ça peut se dérouler, Fabien?
Oui, de toute façon, moi je sais que lorsque d'abord on évite la population connaît d'abord ce que c'est le paludisme, ça provient d'où. Et c'est pas la suite, maintenant qu'on peut mettre d'autres actions qui sont curatives, notamment la distribution, par exemple, de nutriments d'un pays. Là, c'est dans les cas de traitement préventif. Mais quand on arrive maintenant au point de vouloir donner de la thyrine à tout le monde, pourtant, il y a ceux qui sont en dessous même de la pauvreté qui n'ont pas un droit par jour. Vous me comprenez mieux? Donc, nous, d'abord, s'il aurait d'abord fallu que nous puissions intervenir au niveau de l'éducation à la santé, je crois que ça pourrait vraiment aider cette population là-bas.
On
peut mener des actions.
Merci beaucoup Fabien de Bukavu. J'ai donc quelques minutes le temps de lire des messages. Il y a Meshach Kabamba Wao qui nous écrit ceci. La lutte contre le paludisme passe par l'assainissement de l'environnement. Olivier Akindoua. Quant à moi, je trouve qu'il faut une politique sanitaire bien définie. Dany Roman, pour éviter cela, il faudrait que le gouvernement investisse un peu plus dans le domaine de la santé communautaire. Cela pourrait réduire sensiblement les cas de personnes qui meurent ou qui sont atteintes du paludisme. Alfred Moulamba, il faudrait que la population respecte les consignes des agents de santé dans la lutte contre cette maladie. Sinon, ça sera difficile à combattre le palu. Karel Maungwa, la moindre chose à faire, c'est la sensibilisation. J'ai constaté que beaucoup des gens sont victimes par manque d'informations. Franck Mwamba, qui se trouve au Québec, il y a nécessité de procéder à des réformes très profondes au niveau de la politique sanitaire de la RDC, ainsi qu'une restructuration du système sanitaire. Bonjour Jadot.
Bonjour Marie-Chantal Lumba.
Vous êtes à Loubero, dans le Nord Kivu. Nous vous écoutons.
Oui, précisément, je suis à Vissoussou, qui c'est la localité de Masereka, territoire de Loubero, au sud-est de la ville de Kitembo. Cette maladie du paludisme, pratiquement ici chez nous, en territoire de Loubero, nous sommes sur le climat de montagne, nous ne connaissons pas pratiquement cette maladie. On la qualifie comme une maladie des régions chaudes. Mais la grande question qu'on se pose pour arriver à éradiquer cette maladie, et qui est une maladie des eaux chaudes, je pense qu'il y a lieu que dans les universités, il y a la faculté de santé publique, le gouvernement puisse mettre assez de moyens pour permettre à ce que ces étudiants qui font la faculté de santé publique puissent avoir des moyens d'organiser des séminaires de formation des paysans, parce qu'il y a un proverbe de Pierre en matière de santé qui dit mieux vaut prévenir que guérir.
Mmh.
Et précisément, dans ces quatre-ci, les politiques congolais, moi j'ai comme l'impression qu'ils n'ont jamais investi dans la santé. Pourquoi? Imaginez dans la région où il y a le froid, qu'on puisse passer à distribuer des moustiquaires imprégnés. Pourquoi faire? C'est-à-dire qu'on n'a pas pris les cibles où on peut donner tel ou tel autre moyen de lutte contre telle ou telle autre maladie.
Mm-hmm.
Alors je pense que le docteur qui est passé, qui a été la ministre, qui resterait encore à lui, je lui aurais posé la question de savoir qu'est-ce qu'il a pris comme stratégie d'éradiquer efficacement contre cette maladie.
Merci beaucoup, ouais. Jadot. Donc, c'est une préoccupation. À l'époque où il était ministre, qu'est-ce qu'il avait fait pour lutter contre le paludisme? Malheureusement, il n'est pas avec nous. Et vous avez quand même soulevé des choses assez importantes pour savoir. Vous préconisez d'abord qu'on puisse mener des études, des recherches pour savoir dans quel milieu tel projet peut être adéquat dans la lutte contre le paludisme. Et merci beaucoup, Jadot. De Loubéro dans le Nord Kivu.
Au capidance du rythme de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique d'ailleurs, tous les tempos mixés par DJ Daddy. Au capidance, les mercredis jeudi de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Et nous revenons à notre second invité, Dr Richard Mukalenge. Vous êtes avec nous, je l'espère, parce que souvent la vie électronique nous joue des tours. Donc, vous avez suivi cette deuxième série d'auditeurs. Vous étiez expert spécialiste en santé publique. Ils sont revenus sur l'assainissement du milieu, la prise de conscience, le traitement, l'investissement par le gouvernement qui investit davantage dans ce secteur-là. Mais a priori, nous sentons qu'il y a une forte connaissance de la maladie et que peut-être ce sont les moyens qui manquent. Mais d'une façon un peu pratique, technique, qu'est-ce qui peut être fait par chacun pour pouvoir lutter contre cette maladie?
Merci beaucoup pour cette question. Voici la réponse si je veux aider les auditeurs. En ce qui concerne l'assainissement de l'environnement, les auditeurs doivent savoir que le vocable qui parle de l'assainissement du milieu en matière de la participation communautaire voudrait que tout le monde mette la main dans la pâte. Il faut que les foyers, les familles, commencent à assainir d'abord leur environnement, en se débarrassant des gîtes larvaires. Je cite parmi les gîtes larvaires, surtout dans les villes, ce sont les boîtes de conserve, les bouteilles d'eau, je ne sais pas quoi, et les nappes d'eau, après la pluie, les nappes d'eau le long des routes, et aussi curer les caniveaux. Et après curage, il faut débarrasser les routes de tout ce qui peut rentrer dans ces ouvrages. Ça, c'est la première chose. L'assainissement du milieu consiste aussi à intégrer, par exemple, pour l'utilisation des moustiquaires imprégnés, cette notion au niveau des menuisiers, afin que les lits soient adaptés à recevoir ces ouvrages, donc la moustiquaire imprégnée. Et puis, que les menuisiers sachent mettre au niveau des fenêtres les nécessaires dans les treillis pour empêcher l'entrée et l'annonçage.
Est-ce que c'est pas aussi une question de moyens de chacun? Parce que nos auditeurs sont revenus sur le revenu de chaque citoyen.
Mais, c'est assez difficile. Mais justement, madame, il y a un adage du sage qui dit « La fin justifie le moyen ». Quand nous regardons la plupart des gens qui se plaignent, quand ils s'habillent, ils ne coûtent pas moins de $250. C'est ça le problème.
Ça, c'est pour ceux qui s'habillent bien, mais ce n'est pas tous qui le font.
Ça, c'est le moyen, l'individu moyen de la ville de Kinshasa, par exemple, ou des grandes villes de la RDC. Voilà. Alors, je continue en disant, atteindre le milieu, c'est savoir aussi où habiter. Il y a un auditeur qui a parlé de Ngaba. Vous savez que Ngaba est loti ou c'est une commune qu'on a créée sur une nappe phréatique qui est à moins de 20 cm de la surface. Donc, quand nous regardons le plan directeur de l'aménagement de la ville de Kinshasa, c'était une rizière, donc c'était destiné à la culture du riz. Pourquoi les gens sont allés habiter là-bas? C'est ça encore le problème.
c'était une rivière qui devait être attachée à l'Institut technique agricole de Mombele. Mais les gens sont allés habiter là-bas parce que les tenants du pouvoir à l'époque avaient distribué cette forme de terre aux gens qui ne voyaient pas qu'ils habitaient sur la nappe phréatique. Donc il y a une humidité telle que les moustiques vont se multiplier sans frein, 24 heures sur 24, et pendant toute l'année, même en saison où il n'y a pas de pluie. Donc c'est ça aussi l'assainissement du milieu. Assainir le milieu, c'est aussi obéir aux directives qui viennent de la hiérarchie. Alors, maintenant, pour la médication, je crois, beaucoup ont donné de très bonnes réponses. Il y a le médicament de la première ligne, c'est la tésinate amodiaquine, et le médicament de la deuxième ligne, donc la quinine, pour les cas graves. Donc, ceux qui sont dans le coma, etc., etc. Mmh. Mais il faut que la communauté suive ce que les personnes attitrées parlent. Alors, pour ce qui est de la politique sanitaire, vous savez que le pays a une meilleure politique sanitaire que les autres ont copié. Quand le monde entier s'est retrouvé à Alma-Ata, c'est le programme sanitaire du Congo qui était retenu, qui était la meilleure avec les zones de santé, etc., etc. Donc, pour cela, vous savez que en RDC, il y a le programme national de lutte contre le paludisme. C'est un service technique qui apporte à la communauté les connaissances nécessaires pour lutter contre la malaria. Et ce service, en principe, doit être appuyé par d'autres services en dehors du ministère de la Santé publique. Par exemple, l'urbanisme et l'habitat, etc. Mais ce qui ne se fait pas jusqu'au même sens. Chacun travaille en solo. C'est pourquoi vous avez les résultats que nous avons là.
Oui, docteur Richard, nous allons écouter deux autres auditeurs et lire quelques messages. Restez avec nous pour que vous puissiez réagir face aux avis des auditeurs, aussi des conseils pratiques pour lutter contre le paludisme. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Bonjour, madame.
Oui, Arsène, nous vous écoutons.
Ok, la meilleure des choses que j'ai trouvé, heureusement aujourd'hui, que j'ai le docteur Richard, que j'admire beaucoup des fois ses interventions, et le docteur Sonji. Bon, moi, je veux plus aller vers les responsabilités. Le docteur Richard a bien expliqué, très bien même expliqué ce qu'il y a. Hein. Je suis devant le personnel soignant. Au moment où je vous parle, je suis à l'hôpital, secondaire de Kanzombi à Kikwit. Qu'est-ce que je trouve autour de moi? Ce que je trouve autour de moi, c'est de la saleté. De la saleté sur un fleuron de l'église protestante de l'époque. Les moustiquaires imprégnés. Il n'y a aucun moustiquaire. Il y a des vitres cassées. Il y a des fenêtres qui n'ont même pas de treillis. Mais on appelle ça hôpital. Alors, ce que je regrette, que le docteur Songe soit parti, c'est ce que j'allais vous demander. Des histoires comme des moustiquaires imprégnés. C'est connu de tous que ce sont des histoires qu'on a distribuées gratuitement. Mais comment dans l'hôpital, qu'on appelle l'hôpital secondaire, qui dépend directement de l'hôpital général de référence, on peut manquer des moustiquaires, on doit avoir des treillis brisés, vraiment, c'est regrettable. Alors là, je vais directement tout droit vers le nouveau Premier ministre, avec qui nous avons déjà débattu une fois ici, les responsabilités politiques. Passe d'abord, premièrement, par l'éducation de la population. L'éducation de la population commence par l'école. Si aujourd'hui, on ne sait pas ancrer dans la tête de plusieurs personnes ce que les médecins, ce que les personnels soignants sont en train d'expliquer à la population, qu'on se retourne à l'école. Parce qu'on va commencer dès la base à éduquer la population. Pour que d'ici les 10 ans, nous pouvons essayer un peu de remettre la première chose, la plus nécessaire, la propreté et l'éducation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je félicite le docteur Richard pour tout ce qu'il a dit. Et je regrette le départ du docteur Songe qui me suit. Peut-être après, il va me suivre. Les responsabilités du gouvernement, du personnel politique.
Merci.
Voilà ce que je voulais dire.
Merci, Arsène de Kikwit. Nous prenons Noé qui se trouve en Vira. Bonjour, Noé.
Oui, bonjour, madame. J'essaie d'intervenir aussi dans le même sens, mais je dirais merci pour mon confrère de l'Aubert qui a dit que chez eux, ils n'ont pas cette maladie. Vraiment, c'est à chanter. Mais nous qui vivons la plaine de la Rhodésie, madame, vraiment, nous sommes butés à un problème très sérieux.
Noé ? Allô, nous vous écoutons, Noé. Là, nous avons des problèmes avec Noé Douvira. Il a rebondi sur notre auditeur des propos de Jadot de Loubéro, qui disait que dans les régions assez montagneuses, là, il n'y a pas trop de malaria. Mais ici, lui, Noé, lui pensait qu'au niveau d'Ouvira, qui sont dans la plaine de la Rhodésie, connaît cette difficulté. Et là, il voulait peut-être nous expliquer, nous dire ce que lui préconise, mais nous l'avons perdu. La réalisation va pouvoir essayer de le recontacter pour qu'il puisse nous dire ce qu'il pense pour la lutte contre le paludisme. Il y a Germain Bibento qui nous écrit ceci, que le gouvernement congolais organise de temps en temps les sensibilisations sur les travaux d'assainissement du milieu. Jennifer Kakonde de Kananga, il faut que chaque individu arrive à s'auto-prendre en charge. L'apport du gouvernement n'est pas primordial. Un individu qui vit avec pour voisin le plus proche des flaques d'eau stagnante, la brousse, faut-il que le gouvernement vienne évacuer ces eaux ou couper les herbes. Voilà ce que pense Jennifer Kakonde qui se trouve à Kananga. Elle pense qu'avant que le gouvernement ne puisse intervenir, il faudrait déjà qu'il y ait des actions au niveau local. Docteur Richard, nos deux auditeurs que nous venons d'écouter, deux autres qui nous ont écrit, ils sont revenus, par exemple Noé qui était revenu sur les propos de Jadot qui se trouve à Loubéro, qui estime qu'il faudrait d'abord mener certaines études pour voir quels sont les projets qui peuvent être effectués, cela dépendant bien sûr d'une zone à une autre. Quelle est votre réaction, docteur Richard?
Ma réaction est celle-ci. Vous savez que on ne peut pas faire la lutte contre le paludisme seulement par le ministère de la Santé publique. Il faut que d'autres ministères s'impliquent. Lorsque vous parlez des études, moi je vois les chercheurs, je vois l'enseignement supérieur et universitaire, je vois toutes les publications des chercheurs, tous les mémoires des étudiants, etc. Il faut que ces choses convergent vers la réalité congolaise d'abord, au lieu que ce soit des cogitations intellectuelles pour y trouver des points aux gens. C'est comme quand nous disons Ngaba n'était pas une bande de terre à lotir pour l'habitation, ça c'était déjà prouvé par d'autres chercheurs. Mais les nouveaux dirigeants du Congo après l'indépendance ont pris ces études, ont mis dans les tiroirs. Donc les études par région, les études par contrée, etc., sont les bienvenues pour lutter contre la malaria. Il y a même un auteur qui a dit qu'il faut enseigner ça à l'école. Nous disons, il y a deux canaux de formation. Il y a le canal formel, ça c'est l'école, parce que la malaria est une richesse du Congo, il faut l'enseigner de fond en comble. Et il y a le canal informel. C'est pourquoi nous préconisons les bazars pour la promotion de la santé de la communauté. La communauté doit, rue par rue, village par village, se rencontrer pour parler des endémies et d'épidémies du coin, sous l'égide du médecin chef de zone, etc. On nous parle des relais communautaires, d'accord, mais ils sont débordés. Il faut maintenant repenser les choses autrement. Nous avons décrit, mais comme on n'est pas burkinabé, on n'est pas malien, quand nous proposons quelque chose, on ne nous écoute pas. Le Barza pour la santé consistera à informer la communauté, à l'amener au changement de comportement par rapport aux problèmes de santé réels qui se trouvent devant elle. Mais quand on ne le fait pas, on rentre dans les habitudes qui ont fait échouer toutes les luttes. Donc on renvoie la communauté à la télé, on renvoie la communauté à la radio, ça ne donnera pas grand-chose. Il faut qu'on repense les choses autrement. Il faut qu'on regarde les choses en impliquant directement la communauté. Sinon, le vocable qui dit la passion communautaire sera un vain mot qu'on prononce pour faire plaisir peut-être aux donateurs qui viennent au Congo. Voilà.
Oui, docteur Richard, je vais vous inviter à suivre dans une minute notre flash d'information. Ismaël aussi est en ligne. Ismaël, restez avec nous. Vous allez intervenir tout juste après ce flash d'information. Je rappelle à tous les auditeurs, comme chaque mercredi, nous avons deux parties d'émission. Nous avons encore 15 minutes après 11h, heure de Kinshasa. Vous aurez la possibilité de pouvoir intervenir pour proposer une lutte efficace contre le paludisme, parce que le paludisme au centre de l'émission de ce jour, selon bien sûr un rapport de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, partout au monde, on est en train de reculer, de pouvoir lutter efficacement contre le paludisme. En République démocratique du Congo, le paludisme reste une maladie qui tue beaucoup et elle est toujours endémique. Je vous invite à présent à suivre notre bulletin d'information.
La Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Nous poursuivons parole aux auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons du paludisme, cette maladie qui tue un enfant toutes les 30 secondes dans le monde. C'est une maladie qui tellement a fait des victimes. Et ici, en RDC, nous connaissons aussi cette maladie. Par exemple, au Katanga, à Manono, en 2011, la maladie avait atteint 26 300 personnes, dont plus de 300 femmes enceintes, et fait 190 décès, parmi lesquels 174 enfants de moins de 5 ans. Ça, ce n'est qu'un exemple de Manono, mais dans toutes les zones de santé où vous vivez, les aires de santé, le paludisme existe à faible ou à fort taux. Et aujourd'hui, nous en parlons pour savoir comment lutter efficacement contre cette maladie. Nous avons gardé en ligne Ismaël qui se trouve à Lubumbashi, Amissi de Kindu et bien sûr notre second invité, le docteur Richard Mukalenge, qui est un expert en santé publique. Nous allons prendre d'abord Ismaël de Lubumbashi pour qu'il puisse nous dire qu'est-ce que lui préconise pour lutter contre le paludisme. Bonjour Ismaël.
Bonjour Madame Marie-Chantal.
Ismaël, nous vous écoutons.
Oui, vous me permettrez d'abord de poser entre quatre grandes questions qui me permettraient d'abord d'avoir comment la différence entre l'assainissement du milieu et la méthode prophylactique et le rôle des médecins. Je veux encore savoir une différence entre un médecin de santé publique et celle d'un médecin généraliste. J'espère que je peux aussi me justifier en plusieurs professions. Parce que dans la ville dont nous vivons, en plus de détails, je suis fort soignant. Mais en plupart des cas, nous voyons que c'est le paludisme qui abonde de temps à autre. Quelle méthode efficace parmi celles que je vais énumérer qui nous permettront à nous débarrasser de cette maladie qui cause des morts de temps à autre? Parce qu'à chaque année, il y a toujours des bilans à nécessité.
Oui. Et quelles sont les méthodes, là que vous ne les avez pas citées, quelles sont vos méthodes, qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour lutter contre le paludisme?
Madame Marie, je veux d'abord dire, le rôle d'un médecin chef de zone, est-ce que c'est rester dans les bureaux et attendre à ce qu'on le paye comme on paye les ministres qui travaillent beaucoup pour l'Assemblée ou il est là que pour recevoir les coordonnées, plutôt d'aller dans les terrains pour savoir les réalités du terrain? Et présentement, là où je vous parle, je vis sur Bongonga, dans les communes Sampemba. Vraiment, c'est très ridicule. Je n'ai jamais vu ni un relais communautaire, ni un médecin qui pourrait mener d'abord l'enquête. Je devais d'abord savoir une dichotomie qui joue entre l'enquête et l'assainissement du milieu.
Donc, dans le milieu où vous vivez, vous n'avez pas vu des relais communautaires venir sensibiliser la population, vous posez des questions sur les attributions, la mission d'un médecin chef de zone doit-il rester dans son bureau, recevoir des rapports d'autres personnes qui coordonnent certaines missions, et la différence entre un médecin qui a fait la santé publique et un généraliste. Merci Ismaël, restez avec nous, vous êtes bien sûr à Lubumbashi, vous nous suivez sur la 95.8, restez branchés sur cette fréquence, vous aurez une réponse à, des réponses à vos préoccupations. Bonjour Amissi.
Bonjour.
Vous êtes à Kindu, nous vous écoutons, quelles sont vos propositions?
Ok, merci Madame la journaliste. J'ai quelques propositions à soumettre à la radio Capi. Nous avons, aujourd'hui, on a reçu deux invités. Le premier invité qui a parti, et le second, nous le gardons toujours au studio. Ce que j'aimerais dire, madame, moi, je suis dans un quartier où les moustiques se développent, se multiplient. Alors, qu'est-ce qui pousse ces moustiques-là, qui se multiplient comme ça? Parce que l'environnement, on ne respecte pas l'environnement. Vraiment, il y a des rigoles, des eaux stagnées dans ces rigoles-là. Un peu partout, vous allez trouver des eaux stagnantes. Et on vit des médecins, on vit même des autorités municipales. Alors, je suis en train de me poser la question. On peut même amener tous les produits qui combattent le paludisme au Congo. Si on ne respecte pas l'environnement, je pense qu'il n'y aura pas de solution. Il faudrait commencer à respecter l'environnement. Deux. C'est un passage du que tu dis, mon peuple périt par manque de connaissances. Tu sais ce qui se passe au Congo? La population n'est pas informée, n'est pas suffisamment informée de ces maladies.
Merci beaucoup, Amissi.
Je veux nous dire que ça tue beaucoup de gens. C'est une maladie meurtrière. Pourquoi le gouvernement congolais ne doit pas prendre l'histoire au sérieux? Bientôt, j'ai suivi à la radio qu'il y a une intervention au Congo-Brazza. Il y avait aussi une intervention à Haïti, juste pour aider les gens qui souffrent. Pourquoi son peuple qui est en train de souffrir, on ne doit pas venir en aide, au secours à ce peuple-là qui souffre?
Merci, Amissi. Oui,
on a procédé à la distribution des moustiquaires. Qu'est-ce qui se passe ici? On a amené des moustiquaires, on distribue aux gens. Dans une famille de 40 personnes, on donne 5 moustiquaires. Et puis, je me suis demandé combien de moustiquaires par personne. Après de cela, après la distribution, on voit des moustiquaires, on est en train de vendre ces moustiquaires au vide de tout le monde. Et puis, moi, je pose la question, est-ce qu'il y a un suivi sur la distribution des moustiquaires à la population? C'est pourquoi, pour combattre le paludisme, il faudrait respecter l'environnement. Il faudrait qu'il y ait une sensibilisation. Merci. Il faudrait prendre la médecine préventive en considération avec une valeur.
Merci, Amissi de Kindu. On sent vraiment que vous êtes vraiment préoccupé par la lutte contre le paludisme. Nous revenons à notre invité numéro 2, docteur Richard Mukalenge. Nos auditeurs ont posé des questions. Vous pouvez répondre d'une manière assez globale et puis avoir une conclusion, parce que dans quelques instants, nous allons céder l'antenne pour la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Nous vous écoutons. Quelle est votre réplique?
Voilà une série de réponses. Le médecin spécialiste en santé publique est différent du médecin généraliste. Le médecin généraliste n'a rien ajouté après sa formation à la faculté, tandis que le spécialiste en santé publique a fait la spécialisation en santé publique, qui fait de lui un concepteur, un formateur, un superviseur et un acteur dans sa communauté. Ainsi que quand nous parlons, par exemple, de l'approche intégrative, active et participative pour résoudre le problème de santé en RDC, ça c'est ma conception. Quand je parle de Barza pour la santé ou le Barza pour la promotion de la santé dans la communauté, ça c'est ma conception. Et j'ai eu à appliquer ça aussi, par exemple. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne la responsabilité de l'État, cela se situe au niveau des fonds alloués au secteur de la santé par rapport au budget. Et en respectant aussi d'autres engagements au niveau régional, sous-régional, etc. Vous savez que la SADC, avec la rencontre de Maputo, avait intimé l'ordre au gouvernement de donner au secteur de la santé 10% du budget. C'est ça la responsabilité du gouvernement et la mise en service des structures capables de jouer le bon rôle dans la communauté. Nous avons le PNLP, donc le programme de lutte contre le paludisme. C'est un secteur qui existe et qui est tenu par des mains outillées, des cerveaux bien formés. Mais là, il faut regarder le budget. C'est ça. Alors, en ce qui concerne le problème de l'assainissement, j'ai dit bravo à Missy, parce que c'est un monsieur qui a compris qu'est-ce qui se pose comme problème dans sa communauté. Si tout le monde réfléchissait comme ça, la participation communautaire dans l'optique de l'approche intégrative, active et participative aura sa raison d'être, parce que tout le monde viendra résoudre ce problème. Les ingénieurs, les médecins, les cantonniers, les balayeurs, etc. Donc, résoudre le problème de santé en matière de lutte contre le paludisme ne relève pas seulement du ministère de la Santé publique. C'est un problème qui doit faire converger autour du problème plusieurs ministères, entre autres les TP et infrastructures pour la création des ouvrages viables et fonctionnels, le ministère de la Santé publique pour la construction des stratégies et la disponibilisation des médicaments qu'il faut, le développement rural pour ruraliser le monde rural vers le développement en éradiquant l'analphabétisme, parce que c'est un grand frein. Parce qu'on ne peut pas lutter contre le paludisme avec une population qui, à 90%, est analphabète. Même si vous amenez les engins russes, les engins américains, vous les mettez là-dedans, les analphabètes ne feront rien avec ça, ils vont détruire ça.
Oui, docteur Bouchard, en vous écoutant, c'est une lutte qui doit être multisectorielle.
Multisectorielle.
Et ça va prendre beaucoup de temps au regard de l'ampleur de la situation actuelle.
Non, ça ne prendra pas du temps parce que nous ne sommes pas habitués à ça. Nous sommes habitués, chacun travaille dans son coin.
Donc le temps de pouvoir intérioriser et pouvoir appliquer, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, il faudrait plutôt apprendre à vivre avec son paludisme.
Il faut apprendre à vivre avec son paludisme en allant vers des lendemains meilleurs. Par exemple, en intégrant, par exemple, la recherche sur la lutte biologique, qui consiste à stériliser, par exemple, les souches ou les espèces mâles ou femelles. Ça, j'ai vu au plein cas, quand j'étais engagé là-bas en 73. Qu'est-ce que ce programme est de plus?
Oui, donc il y a autant de choses qu'il faudrait faire. Nous sommes arrivés ainsi à la fin de cette émission. Nous vous remercions, docteur Richard, d'avoir accepté d'être avec nous. Le même remerciement à docteur Songy, qui était notre premier invité. Nous remercions également à tous nos auditeurs, ceux qui sont intervenus, ceux qui nous ont suivis, que ce soit en effet nous connectés sur www.radiocafi.net. Nous remercions également l'équipe qui a produit cette émission, Thierry Lamézi, Clovis Louboula, Titine Poutou, Héritier Sidiakala, Nicole Ndaka. Nous allons nous retrouver demain, ce sera le 8 mars, pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Comme vous le savez, c'est une journée qui est consacrée sur le plan international à la femme. Et en RDC, plusieurs manifestations seront organisées à travers le pays pour célébrer cette journée. Le thème national est investissement dans la femme rurale et la jeune fille pour un avenir meilleur. La question qui va lancer l'émission de demain, comment investir dans la femme rurale et la jeune fille? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocafi.net ou en postant votre avis sur la page Facebook de Parole aux auditeurs, la page qui porte le logo de Radio Capi. Entre temps, restez branchés sur cette chaîne, la chaîne de la paix, pour la suite de ces programmes.